Vous écoutez, on lit pour vous.
Des grossesses de plus en plus risquées en raison du réchauffement climatique, un texte de Julien Durie de l'agence France Presse paru dans Le Devoir. Les fortes chaleurs de plus en plus fréquentes à cause du réchauffement climatique ne menacent pas que les personnes âgées. Elles augmentent aussi les risques pour les femmes enceintes et leurs bébés, un phénomène de mieux en mieux décrypté par les scientifiques. Le changement climatique accroît les risques liés à la grossesse dans le monde entier en raison de la chaleur extrême, résume mercredi le rapport d'une ONG de référence basée aux États-Unis, Climate Central, relayé en France par l'association Conséquences. Ces auteurs ont cherché à mesurer à quel point l'exposition des femmes enceintes à une chaleur excessive avait augmenté à travers le monde depuis les années 2020, et dans quelle mesure cette progression est liée au réchauffement climatique. Au final, dans la plupart des pays, 221, le changement climatique a au moins doublé le nombre moyen de jours d'extrême chaleur à risque pour la grossesse chaque année, conclut cette analyse. Et la progression est particulièrement marquée dans des régions où l'accès aux soins est limité, notamment dans les Caraïbes, ainsi que dans certaines parties d'Amérique centrale et du Sud, les îles du Pacifique, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique subsaharienne. Ce travail a ses limites. Ces auteurs n'ont pas regardé à quel point les femmes enceintes avaient réellement été plus affectées dans les pays concernés, ne se prononçant que sur l'augmentation des températures à risque. Il fournit avant tout des preuves claires de l'augmentation des risques liés à l'exposition aux chaleurs extrêmes, juge auprès de l'AFP la chercheuse Anna Bonnell de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, soulignant que ces conclusions pourraient autant s'appliquer aux personnes âgées. Mais, en se concentrant sur les femmes enceintes, ce rapport met en avant des risques relativement peu évoqués par les médias et les autorités sanitaires, par contraste avec les dangers chez les plus âgés. Or, les risques de la chaleur et, par extension, du réchauffement climatique pour la grossesse sont de mieux en mieux documentés, même si l'on se pose encore beaucoup de questions sur les mécanismes physiologiques qui les expliquent. Il y a beaucoup de travaux récents dans ce domaine, souligne Mme Bonnell, qui a notamment montré, en Gambie, les effets négatifs de la chaleur extrême sur le développement du fœtus et du nourrisson. Manque d'informations. Une étude plus large, publiée en 2024 dans la revue Nature Medicine, donne une idée générale de l'état des connaissances. Les fortes températures accroissent de multiples risques qui vont des naissances prématurées au décès du nouveau-né en passant par des malformations congénitales. L'exposition croissante à la chaleur constitue une menace majeure à la santé des mères et des nouveau-nés, préviennent les auteurs de ce travail réalisé en compilant près de 200 études. Il faut toutefois relativiser l'ampleur de cette menace au niveau individuel. Selon cette étude, une vague de chaleur multiplie par 1,25 le risque de connaître des troubles de grossesse, ce qui fait peu de différence pour une femme enceinte prise isolément. Mais sur l'ensemble de la population, un tel niveau représente des conséquences importantes en matière de santé publique. Les experts s'accordent donc largement sur la nécessité d'y répondre par différentes mesures d'adaptation, sans parler de la lutte contre le réchauffement lui-même. Certaines mesures ne bénéficieraient pas seulement aux femmes enceintes. Végétaliser les quartiers, limiter la pollution, créer des îlots de fraîcheur, énumère Lucie Adélaïde, épidémiologiste en France à l'INSERM, citée dans le rapport de Conséquences. Mais elle insiste aussi sur la nécessité de mieux informer les personnes concernées afin qu'elles se protègent mieux, alors qu'en France, les femmes enceintes sont assez peu évoquées lors des campagnes annuelles de prévention contre les canicules. Certains sites publics donnent déjà des recommandations très utiles, mais elles sont encore trop peu connues, conclut Mme Adélaïde. C'était « Des grossesses de plus en plus risquées en raison du réchauffement climatique », un texte de Julien Durie de l'agence France-Presse paru dans Le Devoir.
Les algues, une nouvelle arme contre le mélanome? Un texte de Richard Béliveau, paru dans le Journal de Montréal. Une étude rapporte qu'un apport accru en fucose, un sucre présent en grande quantité dans les algues, améliore l'activité anticancéreuse du système immunitaire contre le mélanome. Encore relativement peu connu chez nous, les algues sont pourtant le prototype de l'aliment idéal pour la santé. D'une part, elles ont un profil nutritionnel exemplaire, incluant minéraux, acides aminés essentiels, tous, vitamines, fibres et matières grasses insaturées, incluant des acides gras oméga-3 à longue chaîne, comme ceux présents dans les poissons gras. D'autre part, les algues ont la particularité de contenir également certains polymères de sucre complexes, comme la fucoïdane, formée de longues chaînes d'un sucre particulier, appelé L-fucose, et qui augmente l'activité de l'immunité anticancéreuse. Immunité en panne. L'intérêt porté à la stimulation des cellules immunitaires impliquées dans l'élimination des cellules cancéreuses par les algues provient des limites rencontrées par les médicaments d'immunothérapie développés jusqu'à maintenant. Ces médicaments ont dans certains cas des activités thérapeutiques extraordinaires contre certains cancers agressifs, les mélanomes en particulier, mais ces succès sont assombris par l'absence complète de réponse observée chez plusieurs patients. Dans la plupart des cas, il semble que cet échec de l'immunothérapie soit causé par une quantité insuffisante et une activité déficiente des cellules tueuses à l'intérieur des tumeurs, ce qui laisse le champ libre aux cellules cancéreuses pour poursuivre leur progression. Fucose à la rescousse. Contrairement à d'autres sources de sucre alimentaire, glucose, fructose, sucrose, le fucose n'est pas utilisé par les cellules comme source d'énergie, mais est plutôt ajouté à la structure de plusieurs protéines présentes à la surface des cellules. Cette réaction biochimique appelée fucosylation joue un rôle extrêmement important dans la fonction de ces protéines, notamment celles impliquées dans la réponse immunitaire. Il est donc possible que les anomalies immunitaires observées chez certains patients et qui compromettent l'efficacité de l'immunothérapie puissent être liées, au moins en partie, à une insuffisance de fucose. Les résultats d'une étude récemment publiée dans la très prestigieuse revue Nature Cancer abondent dans ce sens. Dans cette étude, les chercheurs ont observé que l'ajout de L-fucose à l'alimentation d'animaux porteurs de mélanome provoquait une diminution importante, 50 % de la croissance des tumeurs. Cette réduction coïncidant avec une hausse spectaculaire, jusqu'à 50 fois, du nombre de cellules immunitaires présentes à l'intérieur du micro-environnement tumoral. Cette infiltration des cellules immunitaires serait la conséquence de l'ajout de fucose à l'antigène d'histocompatibilité HLA-DRB1, une protéine qui agit comme un véritable agent de recrutement des cellules immunitaires et les attire au niveau de la tumeur où elles peuvent entrer en action et attaquer les cellules cancéreuses. Il est probable qu'un phénomène similaire soit à l'œuvre chez les humains, car les chercheurs ont observé que les patients atteints de mélanome qui présentaient les plus forts niveaux de fucosylation étaient également ceux qui répondaient le mieux à l'immunothérapie. Ces observations suggèrent donc que le L-fucose pourrait s'avérer un moyen simple d'augmenter les quantités de cellules immunitaires anticancéreuses à l'intérieur des tumeurs et ainsi de bonifier l'efficacité de l'immunothérapie. Cette stratégie est faisable, car des études précédentes ont montré que l'utilisation du L-fucose comme thérapie expérimentale pour traiter des enfants atteints de désordres immunitaires rares, déficit d'adhésion leucocytaire, était sécuritaire et dépourvu d'effets secondaires graves. C'était « Les algues, une nouvelle arme contre le mélanome », un texte de Richard Béliveau, paru dans le Journal de Montréal.
Ozempic peut-il traiter d'autres problèmes que l'obésité? Un texte de Mathieu Perrault, paru dans La Presse. Les agonistes du GLP-1, comme Ozempic, Wegovy et Mounjaro, promettent une perte de poids spectaculaire en produisant une sensation de satiété. Des médecins estiment qu'il pourrait être aussi utile pour des maladies non liées à l'obésité. Les cardiopathies. En 2025, deux études ont montré que les agonistes du GLP-1, ces molécules qui imitent une hormone gastro-intestinale ralentissant la digestion et produisant une sensation de satiété, diminuent certains risques cardiovasculaires, même chez les patients ayant un poids normal. Ces résultats ont enthousiasmé Atul Verma et Abhinav Sharma, chercheurs au Centre universitaire de santé McGill, CUSUM. Il semble avoir des effets cardiovasculaires bénéfiques indépendants de l'obésité, dit le Dr Verma, directeur de la cardiologie au CUSUM, qui travaille à une étude sur la possibilité que les agonistes du GLP-1 réduisent le risque de fibrillation auriculaire. Il y a une baisse de la pression artérielle ainsi qu'une amélioration au niveau du cholestérol et du fonctionnement des vaisseaux sanguins. Nous ne comprenons pas exactement les mécanismes en cause, mais ça semble lié à une diminution de l'inflammation. Le Dr Sharma, de l'Institut de recherche du CUSUM, IR-CUSUM, qui travaille sur le même projet, note que d'autres études semblent montrer une réduction du risque de crise cardiaque, indépendamment du poids. Les agonistes du GLP-1 ont été au départ utilisés chez les diabétiques parce qu'ils stimulent la production d'insuline, une hormone qui facilite le passage du sucre du sang vers les cellules. Comme les diabétiques perdaient du poids grâce à ces molécules, elles ont ensuite été approuvées pour traiter l'obésité. Psychiatrie. Chez les diabétiques qui en prennent, il semblait avoir moins de démence, explique Simon Ducharme, neuropsychiatre au CUSUM. Mais en décembre dernier, une étude internationale, EVOKE, a conclu que le médicament avait des effets très limités, ce qui a sonné le glas des espoirs quant à l'effet des agonistes du GLP-1 pour contrer la démence. « Je pense que c'est la fin des efforts pour utiliser les agonistes pour les troubles cognitifs », dit le Dr Ducharme, qui faisait partie d'EVOKE. Par contre, il y a beaucoup d'intérêt pour s'en servir afin de traiter d'autres troubles psychiatriques, ajoute-t-il. Il y a des études en cours pour vérifier leur effet sur les dépendances et même la dépression et les maladies bipolaires. On y songe aussi pour les troubles de l'humeur, mais c'est un peu plus une partie de pêche. Certains patients pourraient par contre avoir des problèmes liés à leur effet sur la satiété, observe le Dr Ducharme. C'était un souci potentiel pour leur utilisation contre la démence parce que les patients sont souvent frêles et ne doivent pas prendre davantage de poids et de masse musculaire. De plus, il pourrait être problématique pour les gens ayant eu des troubles alimentaires. La perte de poids pourrait les faire retomber dans le cercle vicieux de la compulsion alimentaire, souligne le chercheur. Reins et foie. Autre développement plus positif, en décembre 2025, Santé Canada a approuvé l'utilisation du Wegovy pour traiter la stéohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique, MASH, M-A-S-H. Il s'agit du premier traitement pour ce trouble du foie qui touche plus d'un Canadien sur 20 et peut mener à la cirrhose, selon Giada Sebastiani, hépatologue à l'IR-CUSUM. Le quart des patients ayant une MASH, M-A-S-H, ne sont pas obèses, indique le Dr Sebastiani. Des données dévoilées à la réunion annuelle de l'Association américaine pour l'étude du foie ont démontré qu'une partie de l'effet positif sur le foie ne passe pas par la perte du poids, note-t-elle. Les troubles du rein pourraient aussi bénéficier de l'aide des agonistes du GLP-1. En 2024, une étude publiée dans le prestigieux New England Journal of Medicine a montré des effets bénéfiques chez des diabétiques ayant des problèmes de rein, note le Dr Sharma. Je pense que dans un premier temps, on pourrait utiliser les agonistes du GLP-1 pour le syndrome cardio-rénal métabolique, CKM, précise-t-il, soulignant qu'il traite des patients ayant ce problème à la clinique cardio-métabolique qu'il dirige. Est-ce que les problèmes de reins chez les patients non obèses pourraient aussi être visés? Ces médicaments semblent avoir des effets anti-inflammatoires qui dépassent la simple perte de poids, dit Babak Orandi, chirurgien de l'Université de New York, spécialiste des greffes chez les personnes obèses. Le docteur Orandi a publié en 2025 deux études montrant des effets bénéfiques de ces molécules sur les diabétiques ayant des problèmes graves de reins, effet qui ne dépendait pas du poids du patient. L'une d'elles, publiée dans le Clinical Journal of the American Society of Nephrology, montrait que chez les diabétiques sous dialyse, la mortalité baissait du quart. L'autre, publiée dans le Lancet Diabetes Endocrinology, concluait que la mortalité baissait du tiers après une greffe de rein. Les bénéfices des agonistes pour les troubles du rein ne dépendent pas du poids du patient, confirme Catherine Tuttle de l'Université de Washington, spécialiste des comorbidités rein-diabète. Elle vient de publier dans Nature Review Nephrology une revue de la littérature où elle avance que ces médicaments pourraient diminuer la mortalité cardiovasculaire et générale chez les patients sous dialyse. L'exemple des statines. L'engouement pour les agonistes du GLP-1 peut être comparé à celui pour les statines il y a 20 ans, selon tous les chercheurs interviewés. Les statines sont des médicaments anti-cholestérol qui, au début du millénaire, étaient présumés avoir des effets au-delà du cholestérol, notamment pour les cardiopathies, les troubles cognitifs et le cancer. Finalement, ces effets ne se sont pas confirmés. Le docteur Atul Verma, directeur de la cardiologie au CUSUM, affirme « Je pense que les preuves pour les agonistes du GLP-1 sont plus fortes que pour les statines il y a 20 ans. » Thomas Eschenhagen, chercheur de l'Université de Hambourg, en Allemagne, en est moins sûr. Selon son analyse des résultats des études, au niveau des cardiopathies, les données montrent que la majorité des effets sont associés à la perte de poids, dit-il. Il avait publié en 2021 une étude montrant les effets des statines sur d'autres problèmes que ceux liés au cholestérol dans la revue Circulation. Selon M. Eschenhagen, les statines ont été présentées comme des médicaments miracles juste avant la fin de l'exclusivité des brevets. C'est la situation dans laquelle se trouvent actuellement les agonistes du GLP-1. Je ne pense pas que c'est un hasard, note-t-il. Le détenteur de brevets aurait intérêt à maximiser les ventes de leurs médicaments avant la fin de leur période d'exclusivité. Par la suite, il n'y a généralement plus assez d'argent pour faire de nouvelles études afin de trouver de nouvelles applications. Incidemment, une étude publiée en décembre 2025 dans les Annals of Internal Medicine a conclu que les agonistes du GLP-1 ne diminuent pas le risque de cancer lié à l'obésité. C'était Ozempic peut-il traiter d'autres problèmes que l'obésité? Un texte de Mathieu Perrault paru dans la presse.
La mère d'un jeune autiste dénonce un accès à l'hébergement opaque et inhumain, un texte de Sébastien Tanguay, publié dans Le Devoir. La mère d'un adolescent autiste de 17 ans dénonce un mécanisme d'accès à l'hébergement, MAH, qui ferme des portes au nez de son fils, plutôt que d'en ouvrir. Magali Poulain déplore l'opacité d'un processus inhumain qui consulte peu les familles et qui, dans son cas, refuse à son grand garçon une place dans une ressource intermédiaire située à 15 minutes de chez elle. Au bout du chemin forcément tortueux qu'un cœur de mère doit emprunter pour confier son enfant à d'autres soins que les siens, Magali Poulain a trouvé l'inespéré en janvier dernier, une résidence familiale, humaine et à proximité de chez elle, et où son grand garçon pourrait s'épanouir, elle en était certaine. On est tombé amoureux du lieu et de la personnalité de la personne qui tient l'établissement, souligne son conjoint, Patrick Campagna. Tous les deux, nous nous sommes dit, c'est là qu'on veut qu'il aille. La famille Beauceronne a donc déposé une demande d'hébergement auprès de la seule instance habilitée à l'octroyer, le MAH du 6 de Chaudière-Appalaches. Ça a été une décision très émotive. Dans ma vie, je pensais qu'il allait toujours habiter avec moi. Mais je me rends compte qu'il vieillit et que je vieillis moi aussi, raconte Magali Poulain. Avec l'aide d'une travailleuse sociale, elle a soumis en septembre le formulaire nécessaire à la demande. Ce document de 10 pages, consulté par Le Devoir, dresse le portrait des habitudes et des problématiques affectant son fils. Le formulaire note que l'adolescent souffre d'anxiété et peut montrer une certaine agressivité lorsque des imprévus chamboulent sa routine ou que des bruits trop forts troublent son environnement. Le document suggère des solutions simples pour offrir des repères temporels à ce grand enfant. Afficher un semainier visuel clair, utiliser un minuteur pour encadrer ses activités et lui accorder du temps pour traiter les informations, par exemple, permettent de prévenir ou de tempérer les crises engendrées par l'inattendu. Le garçon que sa mère demande de ne pas identifier sur la place publique a certes besoin d'une aide partielle pour la réalisation de tâches quotidiennes comme s'habiller, se laver et se brosser les dents, mais le formulaire souligne que l'adaptation de l'enfant s'effectue rapidement et que les routines peuvent être acquises très vite. Ce n'est pas rempli de négatifs, précise Patrick Campagna. Nous racontons que nous allons au cinéma avec lui, que nous allons à Old Orchard, que nous l'amenons dans les restaurants, que c'est possible, dans le fond, de faire plein de choses avec lui quand nous nous y prenons de la bonne manière. Un refus sans appel. Le 7 novembre dernier, le MAH a rendu sa décision. Le garçon ira dans une résidence à assistance continue contre la volonté de sa mère. Point final. Il s'agit d'une solution de dernier recours, dénonce Magali Poulain, qui confinerait son fils dans un milieu institutionnel s'approchant davantage d'un CHSLD que du milieu familial dont elle rêvait pour lui. Et ses ressources sont déjà souvent à bout de souffle. La mère refuse de se plier à ce verdict sans d'abord se battre pour son garçon. C'est inhumain que l'État s'accorde le droit de décider de l'avenir de mon fils sans me consulter. Jamais le MAH n'a rencontré mon garçon. Jamais il ne m'a parlé directement avant de prendre cette décision qui est tellement importante pour ma famille. Magali Poulain comprend d'autant plus mal cette décision que la ressource intermédiaire acceptait d'évaluer son fils en vue de savoir si son milieu, habitué à travailler auprès des jeunes atteints d'un trouble du spectre de l'autisme, correspondait à ses besoins. C'est inhumain que l'État s'accorde le droit de décider l'avenir de mon fils sans me consulter. Magali Poulain. Des jeunes comme lui, c'est ma clientèle, explique au Devoir la directrice générale de la résidence, qui préfère demeurer anonyme. Le 6 de Chaudière-Appalaches m'a envoyé une liste de comportements observés chez lui et m'a demandé si j'étais prête à aller plus loin. J'ai répondu « Oui, j'aimerais aller de l'avant, puis connaître son dossier complet », ajoute-t-elle. Le 6 n'a jamais donné suite à cette ouverture, sinon pour indiquer à la ressource intermédiaire que l'adolescent irait dans une résidence à assistance continue. En 20 ans, ça ne m'était jamais arrivé que j'accepte un dossier et qu'on me dise non par après, poursuit la directrice générale. Une mécanique déjà dénoncée. Le cadre de référence qui gouverne les MAH du Québec depuis 2023 souligne que le placement d'une personne vulnérable dans une ressource d'hébergement doit résulter d'une réflexion qui se fera impérativement avec la participation active de l'usager et de ses proches en tenant compte de leur opinion. Le CIS de Chaudière-Appalaches assure que les familles ont voix au chapitre. Les proches de la personne sont rencontrés afin de collaborer à la complétion d'un formulaire visant l'identification du fonctionnement et des besoins de la personne, écrit sa porte-parole. Aux yeux de Magali Poulain, toutefois, le système impose bien plus qu'il collabore. Et la mécanique de l'hébergement des personnes vulnérables au Québec continue de grincer depuis que la protectrice du citoyen a braqué une lumière peu flatteuse sur elle en 2021. À l'heure actuelle, les mécanismes d'accès privilégient une évaluation principalement liée aux besoins cliniques de la personne. Les besoins socio-affectifs sont peu considérés, déplorait Marie Rinfret à l'époque. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, M3S, précise que le cadre de référence constitue la réponse principale aux recommandations de la protectrice du citoyen. Il ajoute toutefois qu'un manquement au principe qu'il énonce n'entraîne aucune sanction. Magali Poulain, en processus de retour au travail à la suite d'un accident de la route survenu en février 2024, doit décider d'ici quelques jours si elle accepte le verdict du MAH, et ce, sans savoir où l'éventuelle résidence à assistance continue de son garçon se situera, ni à quelle date il pourra l'intégrer. Comment l'État peut me demander de choisir l'avenir de mon fils avec si peu d'informations? J'ai l'impression que mon garçon se résume, à leurs yeux, à un numéro. Je m'en suis occupée pendant 17 ans. Et j'ai un certificat en trouble du spectre de l'autisme. Mais c'est comme si ça ne comptait pas. C'est comme si mon opinion, en tant que mère, ne valait rien. Et je refuse d'accepter ça. C'était « La mère d'un jeune autiste dénonce un accès à l'hébergement opaque et inhumain », un texte de Sébastien Tanguay, publié dans Le Devoir.